Alors finalement, ce mois d'août, on a regardé ensemble Daniel chapitre 6, on a regardé le psaume 103, et là on va reprendre après prière, et puis voilà, j'ai décidé de reprendre le livre aux Éphésiens, et on avait arrêté au chapitre 4 et au verset 17, alors nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés, Éphésiens chapitre 4 et verset 17. De dire aussi que si vous êtes là pour d'habitude on fait les annonces avant, excusez. Donc bienvenue à tous et chacun, et je vois Benoît et Marcy, merci. Enfin, vous aurez l'occasion de dire un mot à la fin pour les annonces, là, pour les mots de bienvenue. Merci. Alors, Éphésiens chapitre 4, pour reprendre les Écritures ensemble, nous lisons en Éphésiens chapitre 4 et verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Prions notre Père, merci de nous rappeler ce que peut-être nous avons vécu nous-mêmes dans le passé, mais tu nous appelles maintenant à vivre en nouveauté de vie, et nous te remercions Seigneur de cette exhortation de ce matin que nous laisse l'apôtre Paul, inspiré par toi, afin de ne plus marcher selon les païens, selon la vie ancienne qui était la nôtre, afin de nous débarrasser de cette ancienne vie pour entrer pleinement et joyeusement dans la puissance de la nouvelle vie que tu nous as laissée en Christ. Merci de parler à nos cœurs ce matin. Merci de ce que ce message, Seigneur, ta parole, ne soit pas vaine et qu'elle ne retournera pas en vain, mais que, Seigneur, elle parlera à nos cœurs ce matin. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un redémarrage un peu sous une forme d'exhortation que nous laisse l'apôtre Paul. En fait, nous avons déjà regardé au chapitre 4 pour donner un peu le contexte du verset, à partir du verset 17 de ce passage, que Paul nous exhorte à avoir une marche digne. En fait, une marche dans l'unité. Et verset 3, il était question de vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et verset 4 à 6, les bonnes raisons pour lesquelles on peut rester unis, vu qu'on a un seul Seigneur. Et puis aussi, cette marche digne nous permet non seulement d'être unis, mais aussi de grandir, basée sur le don de Christ. Christ nous a laissé ses dons, des dons spirituels, des dons d'homme aussi, à partir du verset 11, et on a parlé en détail, verset par verset, verset 11 à 16, de la croissance du corps. En fait, la marche digne amène l'unité, parce que basée sur Jésus-Christ, un seul Seigneur, la marche digne amène la croissance, parce que centrée sur Christ, qui lui donne cette croissance. En fait, l'Église, dans sa croissance, est le reflet de la marche de chacun. Il y a une marche individuelle et une marche collective. En fait, l'apôtre Paul, après avoir brillamment, parce qu'inspiré par Dieu, dans les trois premiers chapitres, nous dit qui nous sommes en Christ, après avoir été perdus, comment maintenant Dieu nous a établis en Christ, il a dans son cœur l'idée de nous exhorter à marcher d'une façon qui reflète cette connaissance de Christ. Mais il y a un danger, il y a un danger. Après avoir connu le Seigneur, il y aurait peut-être le danger du croyant qui retourne dans son ancienne vie. Ou peut-être de réfléchir sur quelqu'un qui se dirait croyant et qui continue à vivre comme dans une ancienne vie. En fait, l'apôtre Paul dit que quand on est chrétien, né de nouveau, on a une marche en nouveauté de vie. Et pour exprimer clairement ce qu'est la nouveauté de vie, il commence par nous dire ce qui n'est pas une marche. Un homme nouveau, c'est qu'une marche, un homme ancien, ou une marche selon le païen, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Il faut dire que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, n'est-ce pas, nous parle d'une victoire de ces croyants d'Éphèse, n'est-ce pas, qui ont rencontré le Seigneur, dans une société qui était extrêmement difficile et je dirais qui a beaucoup de similitudes avec la nôtre. On appelait le bien mal, le mal bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une pétition sur Internet qui circule au sujet de la théorie du genre, n'est-ce pas, où les fascicules scolaires sont sortis pour la rentrée, où maintenant on dit oui, effectivement, on est avec un sexe différent, un homme, une femme, mais un jour on décide sa sexualité. Vous avez compris le but, n'est-ce pas, de cette façon de promouvoir indirectement l'homosexualité, ce qui est contraire aux Écritures, n'est-ce pas? En fait, l'homme appelle le bien mal et le mal bien, et c'est dû à un rejet de Dieu et de sa nature, et cela a plongé les hommes dans l'idolâtrie et dans les vices les plus abominables. Par exemple, dans le temple d'Artémis, qui était devenu le centre païen de ce grand secteur, Éphèse est une ville qui rayonnait, d'ailleurs, gloire à Dieu, lorsqu'il y a eu le réveil à Éphèse, eh bien, l'évangile a rayonné à partir de cette église, et l'enseignement de Paul a pu rayonner à partir de ce centre, n'est-ce pas, qui était la ville d'Éphèse. Mais il y avait un temple. Il y avait un temple où il était monnaie courante, n'est-ce pas, d'avoir toute espèce de service à la déesse Artémis. Et il y avait des milliers de prostituées, hommes et femmes, des eunuques, des prêtres, des prêtresses, des danseurs et des chanteurs qui se vouaient à cette déesse, avec toute la perversité, n'est-ce pas, qu'il y avait dans ce temple. Alors Paul, lorsqu'il a prêché à Éphèse, ce n'est pas étonnant que dans un tel contexte, il y ait une réaction. D'ailleurs, la Bible dit que l'évangile tranche, l'évangile sépare, l'évangile appelle le bien, le mal, bien. L'évangile déclare clairement ce qui est bien, ce qui est mal. Excusez pour cela, vraiment involontaire. Bon, c'est enregistré, mais ce n'est pas grave. En fait, l'évangile tranche parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Et le croyant d'aujourd'hui dans notre société qui se lève, n'est-ce pas, pour déclarer la vérité, ben, il suscite une réaction. Vous voulez savoir quelle était la réaction en Éphèse? Regardez avec moi Actes chapitre 19. Tournez dans vos Bibles en Actes chapitre 19 et nous allons voir ce qui s'est passé dans ce contexte de l'implantation d'église, la prédication de l'évangile dans les Actes des apôtres à Éphèse. Alors on lit à partir du verset 23, « Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un homme Démétrius, orfèvre, fabriquait des temples de Diane en argent et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. » Et vous voyez, entendez, entre parenthèses, l'idolâtrie était liée à l'industrie et à l'argent. Et vous voyez, entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Et toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, et Macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Ainsi de suite. Il y a une réaction lorsque l'évangile est prêché avec puissance, et c'était le cas de l'apôtre Paul. Alors je prends mes notes parce que j'ai des versets que j'aimerais vous lire au fur et à mesure. En fait, Paul était soucieux de souligner la marche chrétienne en contraste avec celle des païens. Cette marche doit être digne et ne pas être en conforme avec le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et pour cela, il décrit la conduite chrétienne. Et avant, à partir du verset 20, on le regardera, Dieu voulant, dimanche prochain, Paul fait évidemment une description de la marche chrétienne. Mais par contraste, des fois, c'est très pédagogique d'expliquer ce qu'une chose ne devrait pas être avant d'expliquer ce qu'elle est. Donc l'apôtre Paul nous dit ici de ne pas marcher selon la marche païenne, c'est-à-dire sans Dieu. En fait, du verset 17 à 19, Paul nous demande de répudier la vie ancienne. À partir du verset 20 et 21, Paul nous demande de connaître Christ, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et ensuite, verset 22 à 24, de changer d'homme, et à partir du verset 25, de changer de conduite. C'est ce que nous regarderons, Dieu voulant, plus tard. Alors, Paul nous parle au verset 17, au verset 19, de la vie païenne. Parce qu'il est conscient que peut-être certains croyants, vraisemblablement, pourraient avoir la tentation d'y revenir. Mais cette description, lorsque nous l'analysons, et ce que nous allons faire ce matin, elle est sans équivoque. Et elle est extrêmement négative. En fait, c'est le fruit du rejet de Dieu. C'est pour ça que le croyant, quel qu'il soit, notamment celui à qui Paul écrit, celui d'Éphèse, doit apprendre particulièrement à se détourner de cette vie ancienne, ne pas suivre cette vie dissolue de la société d'Éphèse et de revêtir l'homme nouveau, car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être en Christ, c'est d'être une nouvelle personne, c'est d'avoir une nouvelle vie, c'est d'avoir un esprit nouveau, c'est d'avoir un cœur nouveau, c'est d'avoir une volonté nouvelle, une nouvelle connaissance, une nouvelle sagesse, une nouvelle perception, une nouvelle intelligence, un nouvel amour et un désir, comme nous dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 6, verset 4, je vous le lis, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Nous marchions en nouveauté de vie. Ah, certainement que le Seigneur a une question à nous poser ce matin. Est-ce que tous les domaines de notre vie, de notre marche, de notre conduite, reflètent un homme nouveau? Ou est-ce qu'il y a des choses dans nos vies qui encore sont liées à l'ancienne vie, au vieil homme? Et ce matin, la parole de Dieu, comme une épée, n'est-ce pas, à double tranchant, veut nous apprendre à considérer que peut-être Dieu veut émonder en nous ce qui est de l'ancienne vie, de l'homme ancien, de l'homme capable de pécher, de l'homme capable de pécher et de pécher terriblement contre Dieu. Où en sommes-nous ce matin dans notre marche avec le Seigneur? Reconnaissons qu'il y a quelques aspects de l'ancienne vie, du vieil homme, n'est-ce pas? Quand on baptise les gens, on dit qu'on les baptise, qu'ils sont morts en Christ et qu'ils sont ressuscités vivants. Vous savez que Calvin disait, oui, on le plonge dans l'eau, mais le coquin, il sait nager. Le vieil homme remonte à la surface, entre guillemets. Et le croyant qui ne veille pas pourrait retomber dans ses anciennes habitudes. Et l'apôtre Paul a un souci ici, c'est que justement il dit, dans le Seigneur, je déclare, vous ne devez plus marcher comme les païens. Le message est clair, ce n'est pas des paroles d'hommes, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas un commandement, une morale, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il ne parle pas de son chef, de son autorité, mais il le déclare dans le Seigneur. C'est donc une exhortation qui vient du Seigneur. Afin qu'on ne suive pas les standards de ce monde, mais les standards de Dieu. Pour plaire à Dieu, nous devons suivre ses standards et suivre sa parole et nous soumettre à sa parole. Vous savez, combien de temps passez-vous à lire vraiment la Bible? Quel est le dernier passage qui vous a parlé dans votre cœur? Quel est le dernier passage ou lecture de la Bible, méditation, étude qui a transformé votre cœur? On est trop des lecteurs superficiels. Nous avons besoin d'approfondir ce que dit l'Écriture et de laisser Dieu, par cette épée qui est la parole de Dieu, nous transformer, nous révéler qui nous sommes vraiment afin de réformer nos pensées et nos voies. Paul dit, je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens. Alors, il y aura quelques versets bibliques, quelques pensées ici dans ce message qui risquent un petit peu de, n'est-ce pas, j'espère nous réveiller en tout cas. Mais voilà ce que dit Paul en 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, concernant la vie ancienne des croyants en Corinthe. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et il ajoute, c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Marcher a le sens ici de se conduire, de régler sa vie. On n'est pas des gens aveugles, on n'est pas des gens qui marchons comme si nous n'avions pas un effort à faire pour régler notre vie. La vie chrétienne demande la discipline, demande une certaine conduite. Et le croyant est appelé à ne plus marcher selon le train de ce monde, mais selon les voies de Dieu. Alors, nous allons voir, et le titre de mon message ici, c'est les caractéristiques de la marche païenne. Évidemment, on est pressé de voir plutôt les caractéristiques de la vie chrétienne. Mais retenons cela, parce qu'on pourrait avoir mis en oubli nos anciens péchés, nous dit Pierre dans un de ses passages. La première caractéristique de la marche païenne, c'est qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Dans le grec, ici, j'ai retenu le mot, c'est ce qui est dépourvu de vérité et de convenance. Donc ce qui ne convient pas du tout. La vanité, c'est quelque chose qui ne convient pas du tout. D'autant plus devant Dieu lorsqu'il s'agit des pensées humaines. La première caractéristique de la marche païenne, c'est une marche selon la vanité des pensées. Je vous lis ce que dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3, versets 18 à 20. Il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Ainsi aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Il y a une vanité dans la pensée de l'homme et Dieu dit qu'elles sont futiles, qu'elles sont vides de sens. Et ce n'est pas étonnant que le monde aujourd'hui tourne en rond et comme disait l'Ecclésiaste, rien n'est nouveau sous le soleil. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Et l'Ecclésiaste disait vanité des vanités. Il y a des gens pourtant brillants dans ce monde qui semblent être très intelligents, qui semblent raisonner de façon très intellectuelle, mais qui n'ont aucune valeur spirituelle et qui n'apportent pas vraiment un sens à la vie selon Dieu et qui, pour Dieu, sont des hommes de néant. Une intelligence vaine, une intelligence vide de sens spirituel. Alors la Bible dit, par exemple, la deuxième caractéristique, qu'ils ont l'intelligence obscurcie. L'intelligence obscurcie, c'est la deuxième caractéristique de la marche païenne sans Dieu. C'est une compréhension de la vie, mais voilée par le Dieu de ce siècle et par les ténèbres. C'est une marche où il n'y a pas la lumière. 2 Corinthiens 4 nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Une façon de se réjouir dans la vie chrétienne, de marcher en nouveauté de vie, c'est de se réjouir d'avoir reçu la lumière, d'avoir été éclairé, de ne plus marcher dans les ténèbres. Jésus a dit, Jean chapitre 8 dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous cherchez la lumière, vous cherchez à éclairer quelques points obscurs de votre vie, allez à Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Le Seigneur veut nous éclairer. Et Paul dit en Éphésiens, notamment chapitre 5, il dit verset 11 « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les ». L'exhortation de Paul ici, c'est de discerner ce qui est ténébreux et de le rejeter. Le ruse du diable, c'est nous faire croire par des différentes tentations ou pensées que oui, finalement, on peut accepter quelque part une certaine dose, n'est-ce pas, de l'esprit du monde. Mais c'est déjà une porte entrouverte qui peut devenir un piège, une ruse, un lien dans la vie du croyant. Paul veut nous exhorter à nous séparer de ce qui est ténébreux, à vivre en nouveauté de vie. Et voici le jugement, c'est Jean qui dit ça. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Vous n'avez jamais fréquenté des gens qui vivent dans certains péchés et qui normalisent le péché, qui trouvent que c'est normal de vivre comme cela? Et on dirait qu'il n'y a aucun sens, n'est-ce pas, de conscience ni de lumière qui pourrait être projetée dans leur cœur pour dire « Oui, finalement, ce que je fais est mauvais devant les hommes et devant Dieu et pour moi. Ce que je fais est mauvais. » L'homme plongé dans les ténèbres ne voit plus rien. Il se justifie de ses actions, de ses pensées, de ses paroles et il ne sait pas qu'il est profondément éloigné de Dieu et dans les ténèbres. Et peut-être qu'il s'enfonce encore plus dans la lumière, de même que le croyant peut aller de plus en plus vers la lumière. L'inconverti, l'incroyant, peut, dans une intelligence obscurcie, s'enfoncer de plus en plus dans les ténèbres. Alors, est-ce qu'on est voilé dans notre vie quelque part, par quelques ténèbres? Est-ce qu'on a reçu la lumière de Christ pour justement avoir une intelligence non plus obscurcie, mais éclairée? La troisième caractéristique de la marche païenne, c'est ce que dit Paul, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors le mot grec étranger, c'est être séparé. C'est être séparé. Quel contraste avec le croyant qui connaît le Seigneur, la joie du Seigneur, qui marche dans la joie du Seigneur et qui connaît la vie du Seigneur. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas la vie de Dieu. Et donc, lorsque nous côtoyons, n'est-ce pas, certaines personnes, nous devons prendre conscience qu'ils sont morts, comme nous l'étions nous-mêmes. On était morts dans nos péchés. Juste pour nous mémoriser ce que nous étions, ben, l'apôtre Paul dit, en chapitre 2, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Et au verset 11, il ajoute, « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Vous qui connaissez le Seigneur, imaginez un instant la possibilité d'être séparé avec Dieu. Est-ce que c'est possible de pouvoir imaginer un instant qu'on soit séparé de Dieu? Lorsqu'on s'éloigne de Dieu en tant que croyant, on est vraiment malheureux, n'est-ce pas? Et on a envie de retourner vers Dieu rapidement parce que c'est dangereux de s'éloigner de Dieu, puis on est tellement malheureux parce qu'on a goûté que le Seigneur est bon, on a goûté à la vie avec Dieu. Donc une fois qu'on a goûté à la vie, on veut rester en vie, puis on veut continuer à goûter à la vie. Mais celui qui n'a pas goûté à la vie, ben il est étranger à la vie de Dieu. Il n'a pas de vie spirituelle, il n'a pas la vie de Dieu, et il n'est pas participant à la vie de Dieu, comme nous pouvons y être participants à la vie de Dieu. Donc, le péché chez le croyant amène une certaine mort, éloignement de Dieu, une tristesse dans son cœur, qui le prive de l'abondance de la vie de Dieu. Alors, il y a trois caractéristiques ici, il y en a une quatrième, on verra un petit peu plus loin, mais l'apôtre Paul dit, voilà les deux raisons pour lesquelles le païen marche selon la vanité de ses pensées, l'intelligence obscurcie et la privation de la vie de Dieu, c'est à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà les deux raisons de la marche sans Dieu. Privé de Dieu. C'est l'ignorance et l'endurcissement du cœur. Ça devrait nous donner du zèle, nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'aller prêcher l'Évangile afin de faire connaître la splendeur de l'Évangile et la lumière du monde. Parce que nous étions aussi dans la vanité de nos pensées, sans intelligence et puis séparés de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Il faut dire que parfois l'ignorance peut amener loin. Très loin. Oui, je n'ai pas pensé vous dire ça, mais j'aime bien l'histoire personnellement. Alors, je dois dire qu'il y a eu toute une série à la télévision un dimanche soir, pendant plusieurs dimanches, assez tard. Mais bon, comme je suis un passionné, j'ai regardé très tardivement les films, des films reconstitués. Enfin, ce n'est pas des films reconstitués, ce sont des vrais films, mais avec le fil historique de la Deuxième Guerre mondiale reconstitué. Et c'était incroyable de voir la guerre. C'était difficilement supportable quelque part, mais de voir la folie des hommes, n'est-ce pas, sous l'égide d'idéologie, être prêt, tout un pays, à devenir des meurtriers, à tuer des millions de juifs et toute la guerre et les meurtres. C'est horrible cela. C'est incroyable comment le cœur endurci, l'ignorance de Dieu peut amener les hommes à faire des choses horribles et terribles et penser avoir raison. Hitler, jusqu'à la fin de sa vie, il a pensé qu'il avait raison jusqu'à ce qu'il se suicide. Mais c'est incroyable comment l'aveuglement chez les hommes peut être fort. Il faut dire que la Bible dit que c'est le Dieu de ce siècle qui peut aveugler. Et la puissance de Satan est une réalité. Mais il est question d'ignorance. Est-ce que c'est une ignorance coupable? Ça, c'est la bonne question. Est-ce une ignorance coupable? Est-ce que les hommes qui ignorent Dieu sont coupables devant Dieu? Et la réponse est oui. L'ignorance est un péché. L'ignorance de Dieu est un péché parce qu'elle est synonyme de rejet de Dieu, parce que Dieu s'est manifeste. Regardez avec moi, tournez dans vos Bibles en Romains chapitre 1 et verset 18. Romains chapitre 1 et verset 18. Il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur en fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Donc l'homme qui regarde la nature, qui regarde la création, devrait penser qu'il y a un créateur. Et toutes ces théories scientifiques ou pseudo-scientifiques d'ailleurs, et toutes ces philosophies, n'est-ce pas, qui veulent nier que Dieu existe et qu'il est le créateur des cieux et de la terre, c'est un aveuglement. Un aveuglement qui amène un endurcissement. Il est écrit plus loin: ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, ce qu'est l'idolâtrie. C'est pourquoi, ça c'est quelque chose de terrible. Il y a un jugement à cela. Le rejet de Dieu, dû à un rejet de la connaissance, de la révélation même de Dieu qui s'offre à nous, amène un jugement. Et la Bible dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le rejet de Dieu, l'incrédulité de Dieu, amène à un dérèglement de vie. Et c'est subtil, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie, sans conséquence. Et il y a, on le sait, même pour nous les enfants de Dieu, toujours des conséquences au péché, à l'éloignement de Dieu, au rejet de Dieu, à l'abandon de Dieu. Je pense à ce verset en Romains qui dit: où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du jugement de Dieu. Vous savez, quand on regarde on entend certaines choses, on regarde des émissions où on lit certaines choses, on devrait frémir et avoir la crainte de Dieu en pensant que cette liberté qu'ont les hommes et les femmes de vivre une vie déréglée n'amènera pas un jour un jugement, parce qu'il y aura un jugement. Et nous devons avoir cette sensibilité envers tout ce qui nous entoure, de penser que leur vie, qui leur semble bonne à vivre, amène à un jugement. Et on devrait être à genoux et d'autant plus prier. Parce que la Bible dit, en hébreu, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant bien longtemps après la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Certainement, quand dans vos contacts personnels et le désir d'amener des personnes au Seigneur, dans la sagesse de Dieu, vous voyez des cœurs différents. Mais parfois, c'est terrible de voir combien un cœur peut être endurci, au point où il semble que l'évangile, la semence, n'est-ce pas, comme sur le chemin, dure, va être pris par le diable et n'a aucun effet. Quand vous rencontrez une personne avec un cœur tellement dur où la parole ne peut avoir plus aucun effet, c'est terrible cela. Et prions que Dieu transforme ce cœur dur en terrain jachéré et enlève les broussailles pour les autres terrains et les pierres et devienne une bonne terre. Mais c'est un miracle. Moi, j'étais surpris un jour, un de mes enfants a donné un Nouveau Testament. On avait invité, c'est mon fils qui avait invité, Philippe avait invité un de ses copains de classe à la sortie de au patin à glace là à l'arène qui est à Blagnac, et puis on a distribué le Nouveau Testament, les Gédéons distribué le Nouveau Testament, il en a pris un, il a dit mais qui c'est Jésus, j'ai jamais entendu parler de Jésus. On connaît ses parents, ils sont athées, vraiment des agnostiques, mais vraiment profonds. Et vous savez, moi, une des choses qui me glace, je dirais, c'est quand je vois des enfants tout jeunes dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'un enfant, il a un cœur ouvert comme ça envers les choses de Dieu et la sensibilité spirituelle et la création. Il peut être vite émerveillé, un enfant, si on lui fait comprendre que c'est Dieu qui a tout créé. Mais il y a des jeunes, très jeunes, mais très jeunes, qui déjà disent Dieu n'existe pas à cause d'une éducation athée. Mais c'est terrible, cela. L'endurcissement de cœur a pour conséquence d'être transmise même de génération en génération. Oui, Paul dit, même pour les croyants, écoutez ce qu'il dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres, Hébreux chapitre 3, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Il y a le danger chez le croyant d'être séduit par le péché et finalement de s'endurcir. Il y a l'entêtement chez le croyant possible où il dit « je pêche et je continuerai de pécher ». Ça, c'est dangereux de rester là. Il faut vite aller au pied du Seigneur, s'il faut jeûner, prier, mais ne pas rester dans de telles conditions. L'endurcissement du cœur lorsque le croyant devant Dieu fait front, n'est-ce pas, et raidit son cou et dit « voilà, moi je continue à vivre comme cela ». Une autre caractéristique, et c'est la quatrième ici, que l'on voit, n'est-ce pas, dans ce passage, c'est « ayant perdu tout sentiment ». Ici, il y a l'idée d'une insensibilité. Moi, je suis étonné, alors je ne fais pas de politique, mais avec l'histoire, je me permets de dire ça, parce que quand même, on l'a tous lu et essayé de comprendre, et l'histoire de DSK, comment, quelque part, enfin, on va voir comment il va parler, lui. Mais c'est incroyable quand même comment différents politiques, partis foutus, écoutez, s'il est innocenté et tout ça, peut avoir une vie politique, mais franchement, on est conduit par qui là? Alors, il n'est pas le seul certainement, hein, mais dans la conscience des politiques, là, où est la morale? Réfléchissons à cela. Et quel qu'il soit, hein, je vous dis, je ne fais pas de politique, moi, mais c'est grave, je veux dire, c'est, quand on appelle le mal bien, bien mal, tout le monde, finalement. La vie privée, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la capacité de pouvoir gérer les choses. Mais est-ce qu'on peut dissocier la vie publique de la vie privée? Non. En tout cas, ma compréhension de la Bible dit non. Quand vous lisez, on lit, ma femme et moi, tous les matins, on a un culte ensemble, par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, on est en train de lire un roi. Et quand on voit toute l'histoire d'Israël, Dieu pointe toujours les défauts des rois. Leur qualité, leur succès et les défauts. Pourquoi? Parce que quand il y a le péché, ça entraîne le péché dans tout le peuple et l'endurcissement. Et il y a une conséquence au péché du leader, il y a une conséquence au péché du peuple, d'idolâtrie, d'éloignement de Dieu. Alors on peut jamais dissocier la vie publique de la vie privée. Ça fait penser en 2 Timothée 3 qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » C'est la société de l'hédonisme aujourd'hui. Hein. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. » Puis, franchement, quand on lit ce que dit Paul ici en Éphésiens et qu'on lit d'autres passages, on dirait que la liste n'est jamais exhaustive. On dirait que c'est ouvert et c'est incroyable ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Incroyable. Alors la Bible dit ils ont perdu tout sentiment, ils sont devenus insensibles à cause de leur éloignement de Dieu, insensibles dans leur conscience, dans leurs paroles, dans leurs actions, ils sont devenus insensibles. Est-ce qu'on n'est pas vraiment à la fin des temps en écoutant ce que dit Paul ici, puis en regardant ce qu'il dit en Timothée? Comme j'ai marqué ici, il y a un avertissement, même pour nous les enfants de Dieu, il y a toujours des conséquences de l'éloignement de Dieu et de l'incrédulité. Alors notre prière, c'est que Dieu nous en préserve, n'est-ce pas? Parce qu'on est faible en tant qu'être humain. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin d'être élevés au temps convenable, résistant au diable, parce qu'il est comme un lion rugissant cherchant qui dévore. Et Paul termine avec quelque chose qui est vraiment d'actualité. Il est écrit, ils se sont livrés au dérèglement. C'est Dieu qui dit qu'il les a livrés à l'impureté. Hein, vous vous souvenez? En Romains chapitre 1, on reviendra dans le texte de Romains. Ils se sont livrés au dérèglement. Livrés, ça veut dire vraiment, ils ont choisi, puis ils y vont, puis ils y restent. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le mot grec ici, pour dérèglement, c'est désordre moral, mais c'est dissolution, débauche, sensualité, luxure, sans bride, libertinage, mœurs licencieuses. Quand l'homme, j'ai marqué, étouffe Dieu dans sa conscience, il s'enfonce dans le péché. C'est une loi de cause à effet. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a établi nos lois et des lois morales pour nous? Et lorsque nous enfreignons ces lois, il y a toujours des conséquences à enfreindre les lois de Dieu, de même qu'il a établi les lois physiques. C'est lui qui a établi cela. Alors si on reprend... Ça semble dur ce message ce matin, mais c'est comme un avertissement pour nous les croyants à vivre saintement et aussi pour nous faire comprendre d'où nous venons, d'autant plus louer le Seigneur, et puis à comprendre le monde dans lequel nous vivons comme Dieu le voit. Alors si vous revenez avec moi au chapitre 1 et verset 24 de l'Épître aux Romains, il est écrit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps ». Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, encore un châtiment de Dieu, Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. 3 fois l'expression « Dieu les a livrés » ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induit pas en tentation. Hein? Ne nous livre pas à la tentation. Le croyant même qui se livre à la tentation, Dieu peut le livrer à la tentation. Et là, évidemment, c'est un jugement pour ceux qui s'égarent de façon profonde et avec l'idolâtrie, étant rempli de tout, pour commettre toutes des choses indignes, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Ouh. Ça, c'est vraiment... Vous savez, quand la vie humaine n'a plus de valeur, c'est grave dans une société. Et au travers des guerres, de certaines idéologies, hein, notamment les cirques romains, où la vie n'avait aucune valeur, c'est grave d'arriver là. C'est l'endurcissement du cœur. Dieu les a livrés à l'impureté. La Bible dit aussi que le chrétien, je vais vous lire quelques passages parce que je pense qu'on doit terminer avec des exhortations. Marchant honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, l'ivrognerie, de la luxure, l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et il n'est pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que votre chair a des convoitises? Ben oui, c'est ce que dit la Bible. Chacun de nous, on a des convoitises. Les convoitises, c'est le produit naturel de la chair de l'homme. Tout le monde est capable d'avoir des convoitises, de vouloir satisfaire ces convoitises. Mais la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc on a une part à faire. Je crains qu'à mon arrivée, disait Paul en 2 Corinthiens 12, Dieu m'humilie de nouveau à votre sujet que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Alors ici, Paul termine, il dit « Pour commettre toute espèce d'impureté joint à la cupidité ». Le mot ici, « darbi » traduit ici, ils se sont livrés à la débauche pour pratiquer évidemment toute impureté. Et le mot « pratiquer » ici a l'idée de tirer profit d'eux. Dans le grec, ça a l'idée qu'il y a un commerce lié à cela. Le commerce de l'impureté, mais qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas changé, ça existait du temps d'Éphèse. Et aujourd'hui, nous avons autant la prostitution qui rapporte, avec les proxénètes, la pornographie qui rapporte, les films, les DVD, les cassettes, les revues. L'industrie du sexe est une industrie qui rapporte. Et des gens s'enrichissent. Et ils sont prêts à sacrifier, par amour de l'argent, la cupidité, leur valeur morale, pour tirer profit de ce commerce. Et combien la publicité aujourd'hui, n'est-ce pas ? Profite des sens de l'homme et de la convoitise de nos chairs pour faire la promotion, n'est-ce pas, de n'importe quel objet qui n'a rien à voir avec le corps de l'homme ou la sexualité. C'est incroyable la déviation. Quelqu'un a dit que certainement un des plus beaux dons que Dieu a donné, c'est la sexualité, évidemment dans les liens du mariage. Hein. C'est ce que dit la Bible. Bon, on ne peut pas en parler malheureusement trop longtemps. À l'instant, c'est dommage. Mais dans les liens du mariage, la sexualité est un cadeau merveilleux. Mais Satan a tout fait pour le polluer, pour le dérégler, pour transformer, n'est-ce pas, cette avidité, cette convoitise en toute espèce de déviation, de perversion et d'impureté, de débauche. Toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La Bible dit que la cupidité est une idolâtrie. Je termine avec ça. Dans ce développement, si vous me permettez, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Toute chose, toute personne, toute chose qui prend la place de Dieu dans nos vies devient une idolâtrie. Dieu va être le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. En Ecclésiastes chapitre 12, il est écrit que nous devrions faire attention à la façon dont on vit, notamment les jeunes, parce que ce qu'on sème, on le récolte tôt ou tard. Dieu ne nous a pas appelés, nous dit Paul, à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu veut qu'on garde nos cœurs, nos pensées en lui. Évidemment, c'est un passage qu'on n'aime pas trop développer, parce que c'est tellement négatif, mais c'est sans équivoque. Et la sentence, je pense, qu'il faut retenir ce matin, c'est que la chair est dangereuse. On doit faire attention. On ne doit pas se livrer à notre chair. Parce qu'on pourrait avoir un dérèglement de vie, de conduite, et une marche qui ressemble à la marche païenne, qui est caractérisée par la vanité des pensées, l'intelligence obscurcie, privée de la vie de Dieu, et l'insensibilité. Alors que Dieu nous appelle à vivre en nouveauté de vie, bien au contraire, n'est-ce pas? Alors, si je relis le passage, parce que Paul va parler après de la nouveauté de vie. Je voudrais dire comme ça pour nous encourager à nous, les chrétiens, à vivre, non pas selon la marche païenne, mais une marche divine. Alors, vous ne devez, ce que je dis dans le Seigneur, vous devez marcher maintenant comme des enfants de Dieu, non pas comme des païens, comme des enfants de Dieu, qui marchent, non pas selon la vanité des pensées, mais selon les pensées renouvelées par la parole de Dieu. Et non pas par une intelligence obscurcie, mais par une intelligence éclairée Parce que vivant avec Christ, non pas étranger à la vie de Dieu, mais vivant avec Christ, à cause, non pas de l'ignorance, mais à cause de la connaissance qu'on a maintenant de Christ et d'un cœur régénéré qui nous a donné des cœurs tendres et sensibles à Dieu. Ayant perdu tout sentiment, non, ayant des sentiments maintenant renouvelés en Christ et pas livrés au dérèglement, mais au contraire, veillons à ne pas livrer notre chair à la convoitise, d'autant plus pour éviter de vivre dans l'impureté et la cupidité. Alors c'est vrai que c'est un passage qui est un peu difficile, hein. Mais cette description doit nous faire prendre conscience que c'est le monde païen, dans le sens païen privé de Dieu. Maintenant que nous connaissons Dieu, on est appelé à vivre avec Dieu, à ne pas vivre selon cette marche. Alors lorsqu'on est tenté, lorsque le diable veut nous ramener dans ce joug étranger, soyons fermes, résistants. N'endurcissons pas nos cœurs, mais gardons une sensibilité de conscience et de conduite envers Dieu, qui plaît à Dieu, qui plaît aux hommes, selon, non pas des critères humains, mais selon ce que dit la Bible, qui doit, elle, faire autorité dans nos vies. Prions, s'il vous plaît. Oui, Père, tu nous as placés ce matin devant un message, un passage qui est sans équivoque, mais quelque part qui nous exhorte à vivre une vie sainte et qui te plaise. Alors, donne-nous de veiller. Donne-nous aussi d'être plein de compassion en voyant cette description, parce que nous-mêmes, nous étions comme cela, et tu nous as sauvés, alors que cela amène une louange profonde dans nos cœurs. Et puis, en même temps, Seigneur, que nous soyons dans la crainte de Dieu, non seulement de ne pas tomber dans le monde, mais de voir le monde tel que tu le vois, afin, Seigneur, de craindre Dieu, de nous éloigner du péché, mais d'avoir aussi un amour profond pour ce monde perdu dans lequel nous faisions partie. Donne-nous, Seigneur, dans cette nouvelle année, d'avoir la vision de Dieu, d'une vie sainte, d'une marche digne qui t'honore et te glorifie. Nous te le demandons pour chacun de nous ici ce matin, au nom de Jésus. Amen.